temps universel. À tout de suite. Bye bye.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition de l'Amérique et vous. Eric Manirakis avec vous, Lionel Monavina Galima assure la mise en onde. Ce soir nous parlons de la diaspora africaine et de son intégration ici aux États-Unis. Il n'y a pas de destin de tracé, forger le tien par sa perception, par sa participation, par sa détermination et par son abnégation. Donna Maurice, que nous allons essayer de découvrir avec nos invités. La vie à l'étranger ou en exil tout court n'est jamais facile. C'est un combat. Merci d'être avec nous. Amérique et vous accueillez ce soir Madame Aline Rukiana, propriétaire d'un bar et restaurant Two O Seven à Portland, Maine. Madame Aline, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Eric.
Le deuxième invité, c'est Thierry Mugabe, vice-président de la communauté burundaise dans l'État du Maine. Il est également à la tête d'une équipe de basketball. Monsieur Mugabe, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Eric.
Est-ce que vous auriez des liens de parenté avec l'ancien président du Zimbabwe, F. Mugabe?
Non, pas du tout. Moi, je viens du Burundi et lui, il était président du Zimbabwe.
Mais vous êtes fier d'être son homonyme?
Pas mal de Burundais s'appellent Mugabe, donc ce n'est pas seulement moi. Je ne suis pas fier de lui, compte tenu de son histoire, de comment il a dirigé son pays. Voilà.
Merci à vous tous d'être avec nous. Aline, je vais commencer par vous. Vous êtes originaire du Rwanda et de la RDC, c'est ça?
Oui, je suis originaire du Rwanda, mais je suis né et j'ai grandi en RDC, plus précisément dans le Kivu.
Oui. Quand est-ce que vous arrivez aux États-Unis, Aline?
Je suis arrivée aux États-Unis il y a plus ou moins 4 ans. Octobre 2016.
Vous débarquez aux États-Unis. Est-ce que vous voyez l'idée?
Oui, je débarque aux États-Unis pour des raisons personnelles que je ne vais pas évoquer ici. Et donc, je commence par Boston, Massachusetts. J'y reste plus ou moins 6 mois. Et là, je débarque à Portland, Maine. Et depuis lors, je n'ai pas quitté Portland, Maine. J'y suis toujours.
Est-ce que l'idée que vous avez des États-Unis avant votre arrivée, c'est ce que vous constatez quand vous y mettez votre pied ici?
Disons que j'ai été un peu déçue quand je suis arrivée. Le début a été très difficile, mais au bout d'une année, les choses se sont remises en place et je me suis faite à ma nouvelle vie. J'ai commencé à travailler, je me suis fait des amis, j'ai une grande famille, je m'habitue et donc maintenant je m'y fais et je m'y plais.
Thierry, quand est-ce que vous êtes arrivé ici aux États-Unis?
Moi, je suis arrivé aux États-Unis précisément au mois de juin 2008.
Ça fait 12 ans.
Oui, ça fait 12 ans déjà, oui.
Alors, Thierry, vous arrivez aux États-Unis, est-ce que vous êtes content? Racontez-nous de votre sentiment. À ce moment-là?
Comme tout jeune qui arrive aux États-Unis, moi je pensais venir découvrir une vie plutôt simple, pleine d'aventures, plein de choses matérielles, tout ça. Mais quand je suis arrivé, c'était tout autre chose. Je suis resté à Washington D.C. Pendant 3 mois. Puis je suis venu ici à Maine, que je reste là jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
Où je reste là jusqu'à aujourd'hui.
Aline, vous avez parlé un tout petit peu de votre intégration à l'arrivée. Voudriez-vous nous en parler davantage?
Mon intégration à l'arrivée, comme je l'ai dit, n'a pas du tout été facile au début, parce que tout début, comme je l'ai dit, est toujours difficile. Mais petit à petit, je me suis fait des amis, je me suis fait... Voilà, j'ai eu mon permis de travail qui m'a permis d'entrer dans la vie professionnelle. Et de par la vie professionnelle, vous vous faites aussi des amis, vous vous faites aussi... Et donc, finalement, je me sens très bien maintenant.
Et depuis quelque temps, vous êtes employeur, n'est-ce pas?
Oui, je suis employeur, oui. Je suis employeur depuis plus ou moins... depuis janvier de cette année, janvier 2020.
Dites-nous comment cette aventure commence.
Cette aventure commence autour d'un verre avec un ami qui nous a quittés il y a 2 mois, Alain Jean-Claude Nahimana. Et donc, cette aventure commence autour d'un verre. Et on en parle. Et finalement, ça prend de l'élan. Et on trouve un endroit approprié. Et tout doucement. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Malheureusement, il nous a quittés il y a 2 mois. Mais nous sommes là et nous allons continuer l'œuvre qu'il a commencée.
Sa signature est restée. Dans cette aventure, vous embarquez aussi d'autres personnes à bord.
Oui, nous embarquons trois autres personnes à bord. Nous commençons à 2, Alain donc et moi. Et donc nous embarquons aussi 3 autres personnes, dont Aimé Rumbete, Damar Ogawa et Antoine Bikamba.
Comme on dit, l'union fait la force, vous vous mettez ensemble et vous commencez votre projet.
Et nous commençons notre projet et nous continuons notre projet.
Et quelle est la particularité de votre bar et restaurant? D'abord, pourquoi vous le nommez Tour au 7?
J'en suis l'auteur. Je me souviens que quand Alain et moi cherchions un nom à donner à notre restaurant et que je lui ai dit et si on faisait Tour au 7, je le vois encore me dire Tour au 7. Et au bout de 2 jours, il me rappelle tout aussi excité. Il dit, mais tu as raison, Tour au 7, je pense que c'est ça qu'il nous faut. Et donc Tour au 7, c'est le préfixe de Port-Sandman. Et donc on se dit, nous nous sommes tous retrouvés ici, Burundais, Rwandais, Congolais et tous les autres, toute la grande communauté africaine. Pour finir, c'est Tour au 7 qui nous réunit, parce que nous sommes tous à Port-Sandman. Et c'est de là qu'est parti ce nom, et voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous qu'on ne peut pas trouver ailleurs?
Vous y trouvez des très bonnes brochettes. Vous savez, les brochettes dans ce pays, ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Vous y trouvez des très bonnes brochettes, vous y trouvez des sambousas, vous y trouvez de la très bonne cuisine africaine, méditerranéenne.
Et quelle catégorie de clients que vous recevez? Est-ce que vous parvenez à attirer, par exemple, la communauté, disons, américaine qui est là, la communauté blanche, comme on dit?
Oui, nous parvenons à attirer la communauté américaine parce que nous avons des Américains parmi les employés et donc ça aussi c'est un plus. Nous avons aussi la grande communauté africaine qui est à Port-Sandman et donc nous recevons tout le monde.
Thierry, vous, c'est une aventure que vous avez commencée il y a quelques mois, n'est-ce pas, mais frappé par la pandémie de coronavirus et vous arrêtez.
Oui, c'est vrai. On avait aussi commencé à faire un business de son genre. On avait un resto appelé Boujabel. On faisait aussi la cuisine burundaise ainsi que méditerranéenne, orientale. Mais après, avec la pandémie à laquelle fait face tout le monde entier, on a dû fermer temporairement.
Vous êtes vice-président de la communauté burundaise. Il y a aussi d'autres communautés regroupées en association. Quel est le point commun de vos communautés?
Le point commun de nos communautés, c'est que, premièrement, on est tous fondés sur l'entraide sociale. Par exemple, si l'une ou l'autre de notre communauté burundaise a, par malheur, un problème quelconque, on est mobilisé, on doit aller l'aider. Et puis, par rapport aux autres communautés, on se voit avec leurs leaders, avec aussi sont aussi des amis, des collègues. Il y a une très grande communauté congolaise, très grande communauté rwandaise, angolaise, somalienne. Donc on sent pas très bien. On connaît que nous tous nous sommes venus ici pour presque une même cause.
Aline, ces signes de solidarité qui vous permet aussi de commencer votre projet, n'est-ce pas, à partir d'un verre. Est-ce que le début a été facile? Le premier jour, vous ouvrez, vous drainez.
Oui, je dirais que le début a été facile parce que vu que nous avons une grande communauté africaine ici à Portland même, et donc via les réseaux sociaux, via le statut WhatsApp, via le bouche à bouche, le début n'a pas été aussi difficile. C'est tout, nous avons démarré, nous avons très bien démarré juste au début et ça a continué jusqu'à la fermeture à cause de la pandémie, il y a tout cloué au sol.
Oui, on va parler de cette pandémie plus tard. Voilà, donc vous commencez, il y a une opportunité que vous saisissez.
Nous avons plus compté sur la grande communauté africaine qui est déjà installée ici à Portland, et c'est de là qu'est partie notre idée de faire un bar-restaurant, parce que nous avons déjà une forte communauté ici, comme vous le savez, et c'est cette communauté qui nous soutient et qui est notre plus grande clientèle.
Et la vie ici, elle se mène comment? Entre les communautés, avec la communauté américaine.
La vie ici se résume à travailler. On travaille beaucoup et très fort. On travaille beaucoup. Et donc, et quand nous avons un peu de temps pour nous, ben, on essaie de se retrouver et de relaxer un peu. Mais la majorité du temps se passe au travail, au boulot.
Thierry, vous êtes à la tête d'une équipe de basketball. C'est une équipe qui est composée essentiellement de Burundais ou il y a d'autres nationalités?
C'est une équipe qui est composée essentiellement de jeunes et adultes Burundais qui sont amateurs du basketball.
Et quel est l'objectif qui a motivé la constitution de cette équipe?
Autour des années 2011-2012, ça a commencé à venir beaucoup de jeunes ici. Et puis, comme vous le savez, quand on arrive dans un pays où on ne connaît pas, ça devient très difficile de s'intégrer, aussi d'avoir des activités. Donc, ces jeunes-là, avant d'avoir des activités, ils devraient attendre le temps pour avoir les permis de travail, et aussi aller à l'école. Donc, c'était dans l'objectif de les encadrer. Il y a aussi les jeunes qui ne jouent pas au basketball, qui ont adhéré à cette équipe. Nous, en tant qu'équipe de 257 de jeunes basketteurs du Burundi, on en a fait aussi une occasion pour faire du social. Donc, on s'aide mutuellement, on se salue. S'il y a quelqu'un qui a une occasion, bien que ce soit une occasion douloureuse ou une occasion de plaisir, on se rencontre, on s'aide, on se parle, et puis on s'oriente, on s'aide à s'intégrer. C'est ça l'objectif.
Vous écoutez la Mairie et vous, nous parlons de l'intégration de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Nous revenons dans un instant.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Madame Aline, vous dites qu'il est facile de trouver du travail ici, mais très souvent, on ne trouve pas facilement du travail qui correspond à votre qualification, à votre profil.
Ce qui est beaucoup plus facile ici, si je peux le dire, c'est qu'ici, on vous donne des formations qu'il faut pour pouvoir travailler. Et donc, même si quand vous n'avez pas une base quelconque, ici, on vous la donne. On vous donne des formations pour pouvoir intégrer et pouvoir être actif dans votre profession. Et donc, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles ici.
Thierry, très souvent, on est obligé de faire autre chose.
Oui, Eric, comme l'a dit mon ami Aline, souvent, on est, par exemple, on quitte notre pays et on est ingénieur ou on est docteur, mais on ne trouve pas facilement le travail qui correspond à notre profil. Mais toutefois, il y a aussi du travail qui peut vous faire vivre sans toutefois avoir tant de problèmes. Donc, sans toutefois aller commander ou rester sans toutefois avoir de quoi nous nourrir et tout ça. Donc, on peut toujours avoir du travail qui ne vous font pas vraiment mal, mais qui ne malheureusement pas correspond à votre qui ne correspond pas à vos profils. Mais quand même, ça va.
Madame Aline, il y a cette solidarité qui vous caractérise ici. Est-ce que elle se limite là ou ça va au-delà des frontières pour, par exemple, donner un coup de pouce à ceux-là qui sont restés au pays?
Oh oui, bien sûr que nous donnons un coup de pouce à ceux qui sont restés au pays. Même si nous sommes d'ici, mais nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons, vous savez comment chez nous les Africains, il y a toujours une grande famille. Donc nous donnons un coup de pouce à ceux qui sont restés au pays, oui, bien sûr.
Tout le monde ne doit pas quitter son pays, comme on dit, mais que pensez-vous, nos dirigeants là-bas peuvent, disons, faire pour organiser nos États en vue de créer des opportunités pour que, finalement, les gens puissent avoir aussi envie de rentrer et de participer dans le développement?
Nous participons au développement de nos pays, même si nous sommes en dehors de nos pays. Et si, même s'il faut investir, nous investissons d'abord dans nos pays avant d'investir ici. Et donc, même si nous sommes en dehors du pays, nous participons au développement de notre pays.
Qu'est-ce que nos dirigeants peuvent faire là-bas, par exemple, pour arrêter ce mouvement migratoire, par exemple?
Qu'est-ce que nos dirigeants peuvent faire là-bas? Ben, ils peuvent créer un peu plus d'emplois. C'est le problème majeur qu'il y a en Afrique, partout en Afrique.
La sécurité, peut-être aussi?
Ben, disons que chez nous, au Rwanda, on n'a pas ce problème-là. Nous avons la sécurité. Et donc, mais sinon, dans les autres pays africains, oui, la sécurité aussi, s'il faut ajouter. Voilà.
Thierry?
Oui, comme l'a dit mon ami Aline, pour notre pays, par exemple le Burundi, il faudrait d'abord créer un espace politique où la sécurité pour tout le monde est garantie, parce que, comme l'a dit, tout le monde vient ici pour de différentes raisons. Il y en a qui fuient leur pays, par exemple, qui avaient du bon boulot, qui n'avaient pas ces problèmes économiques. Mais il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont saisi cette opportunité pour venir aussi améliorer leur vie économique. Donc, nos dirigeants africains devraient d'abord créer la sécurité pour tous dans tout le pays, encourager le développement, mais aussi donner l'espace aux investisseurs et aussi leur donner des garanties. S'il y a quelqu'un qui vient investir dans votre pays, il faut lui donner des possibilités aussi pour qu'ils puissent investir.
Aline, la plupart ici, ils doivent faire plus d'un travail pour pouvoir assurer l'essentiel de leur quotidien. Ce n'est pas facile.
Oui, ce n'est pas facile. Comme je l'ai dit au début, nous travaillons beaucoup ici et très fort. Mais par habitude, on finit par s'y habituer, on finit par s'y fuir et donc à la longue, on ne le sent plus. On ne le sent plus, c'est normal de travailler tous les jours et tout le temps et c'est normal.
Et vous l'avez bien comprise parce que rester employé, c'est difficile de s'en sortir, donc vous commencez à vous relever, donc vous créez de l'emploi, c'est le départ.
Oui, je crée de l'emploi, mais moi-même, je travaille beaucoup. Donc, même si vous créez de l'emploi, le système ici fait que l'employeur et l'employé tous travaillent. Et ce n'est pas comme chez nous en Afrique où le patron, le boss, ne fait rien, il ne fait que donner des... Non, ici, l'employeur et l'employé tous se mettent au boulot et travaillent.
Des fois, on parle des problèmes de discrimination, etc. Est-ce que vous les voyez ici?
Je pense qu'ici, on n'en a pas beaucoup comme ailleurs. Oui, c'est vrai, ce problème existe et partout ailleurs, mais je pense qu'ici nous l'avons moins que dans les autres États.
Thierry, est-ce que vous voyez ce problème ici? Il y a par exemple des emplois auxquels on ne peut pas accéder si on n'a pas la nationalité américaine, par exemple.
Je dirais la même chose qu'Aline. Ici, à Maine, dans l'état de Maine, ça ne s'observe pas beaucoup. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas de cas, mais il y en a. C'est pas comme dans le reste du pays. Si on voit même le gouverneur, le nouveau gouverneur, la femme qui gouverne notre état maintenant, pas même deux mois après son élection, elle a appelé les représentants de la communauté, de toutes les communautés qui habitent ici à Maine. Ils ont échangé beaucoup en nous demandant comment on peut contribuer, comment elle peut nous aider pour relever le défi, par exemple, parce qu'il y avait tant de problèmes, des gens qui n'ont pas les graines pour aller pour accéder à l'université. Ça, je peux dire que c'est une discrimination qui est officielle, je dirais. Si tu n'as pas les papiers, si tu ne peux pas avoir accès aux bourses d'études, alors tu dois attendre pour que tu aies les papiers. Mais il y a des mécanismes maintenant, il y a des organisations dont l'une était dirigée par le frère Claude Nahimana, qui était en train d'aider les immigrants à pouvoir accéder aux bourses financières, surtout les immigrants qui viennent plutôt jeunes et qui voudraient accéder aux études supérieures.
Aline, est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez entièrement intégrée dans cette société?
Oh oui, maintenant je me sens entièrement intégrée dans cette société. J'y suis épanouie et je me sens intégrée, oui.
Il y a la pandémie de coronavirus qui change tout. Quel a été l'impact sur vous individuellement et sur votre business, votre projet?
Ben, le restaurant a fermé depuis fin février. Il n'a réouvert qu'il y a seulement un mois et demi. Et donc, vous comprenez que ça a été un coup dur pour tous les business. Il n'y a pas que le mien. Pour tous les business, ça a été un coup dur.
Thierry?
Comme le disait Madame Aline, moi aussi, mon restaurant a dû fermer au début du mois de mars. Contrairement à celle d'Aline, elle n'est pas encore réouverte.
Aline, est-ce qu'il y a-t-il d'autres initiatives qui naissent, comme la vôtre, ou qui sont nées avant, initiées par des immigrants?
Oui, je n'en connais pas beaucoup, mais sûrement, mais je suppose qu'il y en aura d'autres qui vont naître, oui, et que voilà, ça ne fera que nous renforcer la solidarité dans la communauté, la grande communauté africaine ici à Port-au-Prince.
Quel conseil voudriez-vous donner à quelqu'un qui voudrait, par exemple, se lancer dans une aventure comme la vôtre, et quelles sont les leçons que vous tirez aujourd'hui?
Je lui dirais de s'y lancer, oui, je lui dirais de s'y lancer, d'être assez courageux. C'est tout demande du courage et de travailler dur. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de secret. Il n'y a rien à. Il faut juste travailler dur et avoir du courage.
Thierry, quels sont les défis à relever?
Je dirais la même chose qu'Aline, mais aussi non seulement le courage, mais aussi de travailler très dur. Aline l'avait mentionné auparavant en disant ici même être propriétaire dans business, ça ne dit pas que vous êtes là, vous mettez là-bas et vous donnez des ordres. Vous mettez à travailler souvent quand vous entrez dans un restaurant ou dans un bar, venant de l'Afrique ou venant de d'autres pays. Vous pouvez confondre le propriétaire au travailleur, aux employés, parce qu'il sera plus impliqué que même l'employé lui-même.
Ne te réjouis jamais des résultats obtenus dans la facilité. C'est un exploit ordinaire. Glorifie-toi plutôt de ceux qui sont obtenus dans le labeur, dans la sueur et dans la douleur. Ce sont ceux qui te rendent digne, dit encore Donna Maurice Zanou. C'est ce que vous vivez au quotidien. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Aline Luciana, propriétaire d'un bar-restaurant Tout au Seven à Portland, Maine. Merci.
Merci à vous aussi, monsieur Eric.
Thierry Mugabe, vice-président de la communauté burundaise dans le Maine et président d'une équipe de basketball, merci pour votre contribution.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Eric.
Eric Mandela-Kiza était avec vous. Lionel Mandela-Gahima a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.